Teilhard peut être compté parmi les grands scientifiques de notre siècle. Son champ d'action intellectuelle s'étend de la géologie à la paléontologie des mammifères et à la préhistoire de l'homme. En ces trois domaines, il a mené sur le terrain, en Chine surtout, mais aussi en Afrique au cours des dernières années de sa vie, des recherches qui continuent de compter. La découverte avec son équipe de l'homme fossile de Shukuntien, le synanthrope, datant de quelques 500 000 années avant notre ère, et la preuve qu'il s'agissait là d'un authentique Homo faber ont permis d'élargir et de préciser la connaissance que l'on s'efforce d'acquérir des origines de l'homme. Son hypothèse portant sur le lieu de naissance de l'Homo sapiens dans la région du lac Tanganyika reste de nos jours la plus plausible pour nombre de savants. Ses investigations concernant l'époque paléolithique ont servi de point d'appui à Teilhard pour élaborer une vision grandiose qui réinterprétait les évolutionnismes du siècle dernier dans la visée d'une cosmogenèse résolument tournée vers l'avenir. Teilhard sut faire échec à toute conception cyclique du temps. Son regard balaie les millénaires et dispose les grands moments de l'histoire du monde et de la vie le long d'un axe ou d'une spirale qui, passant par deux seuils, naissance advenue de la vie, naissance à venir à la réalité pleinement spirituelle, entraîne le cosmos entier vers une extase, celle du point Oméga, qui marquera au terme d'une convergence des forces disséminées dans l'univers, la naissance dernière à l'ultra-humain. Loi de complexité-croissance, énergie de personnalisation tout entière ordonnée à ce dépassement-accomplissement. Un mouvement dans lequel Teilhard découvre, en filigrane, la haute figure d'un Christ cosmique dont il pressent l'annonce dans les écrits de saint Paul et qui seul, selon lui, peut donner sens à cette cosmogenèse, à toute biologie évolutive. C'est ici que le mystique prend le relais du savant et du philosophe. Ou plutôt, il montre alors qu'il l'accompagnait depuis le début, car en vérité, dans ce système de pensée, l'un ne pourrait subsister sans l'autre. Le fond de la vision teilhardienne est sans doute la conviction que la matière elle-même est lieu d'affirmation et d'émergence d'une énergie spirituelle infinie. Énergie qui trouve son support et sa finalité dans les traits d'un Christ pantocrator aux origines et qui en même temps consume et mène à leur terme toutes les énergies de l'univers. Vision indiscernablement scientifique et religieuse. Pour Teilhard, amoureux du monde et de la matière, il écrit toujours ces termes, ainsi que quelques autres avec une majuscule initiale, puisqu'il s'agit à ses yeux de véritables transcendentaux, le spirituel lui-même est physique. Il est en fait, dans le réel, la seule réalité qui vaille. Vision servie par une langue qui déploie en période de facture éminemment classique un outillage symbolique de grande richesse, archétype jungien du centre, de l'eau, du feu et de la lumière, avec un lyrisme que l'on pourrait tenir pour daté et légèrement suranné, mais qui conserve sa puissance d'entraînement. C'est sur le dessin de cette fresque que se détachent les propos sur la souffrance contenus dans les pages qui suivent. Ils sont tirés de l'ensemble de son œuvre, l'énergie humaine, le milieu divin, genèse d'une pensée, science et Christ, entre autres. Mais aussi, et de façon fort large, de sa correspondance, surtout de celle qui date du temps où, pendant la Grande Guerre de 1914, qu'il vécut en qualité de brancardier sur le front, il connut les larmes et le sang. Quelle fut son attitude face à ce qu'il appelle le côté décidément négatif de nos existences, celui où notre regard, aussi loin qu'il cherche, ne discerne plus aucun résultat heureux, aucune terminaison solide à ce qui nous arrive? Point de résignation passive et veule, mais d'abord une volonté de lutte. Le détachement dans cette visée prend forme et figure de surattachement, et la nécessité excentration de soi n'a sens que d'amener l'homme à se surcentrer sur Dieu. Affirmation générale que Teilhard, à sa manière accoutumée, assoit en disposant les étapes d'une analyse qui se veut, à ses yeux, de pleine rigueur. Au point de départ, une vision du mal et de la souffrance que l'on pourrait dire physicienne, avec, à la clé, reconnaissance de son caractère inéluctable et naturel. Plus l'humanité se raffine et se complique, plus les chances de désordre se multiplient et leur gravité s'accentue. Car on n'élève pas une montagne sans créer des abîmes. Et toute énergie est également puissance pour le bien et pour le mal. À ce premier niveau, la souffrance apparaît presque comme la contrepartie nécessaire d'un bien de plus vaste portée. En elle s'exprimerait la dure loi de la création, soumise à la dispersion du multiple et devant tendre à l'instauration d'une unité amoureuse. Gestation, croissance, le monde se construit. Il y a une affaire en train dans l'univers. L'homme et toute chose sont promis à un remaniement organique complet, et cela ne peut se faire sans que soient distendues douloureusement les capacités d'accueil, corporelles et spirituelles, qui sont le lot des humains. Souffrance de croissance, mais aussi puissance de diminution. Teilhard rassemble ces dernières sous le terme de passivité. Face à elle, la première réaction, qui est aussi celle d'un dieu affronté autant que l'homme lui-même à cette dure loi du devenir, doit être de lutter et d'opposer une résistance au mal, à cette imparfaite organisation du multiple en l'homme et autour de l'homme. Ces servitudes du monde, cette résistance des choses, ne sont aucunement voulues de Dieu. Elles représentent la part d'inachèvement et de désordre qui gâte une création non encore parfaitement unifiée.